16h-18h. Et si on partait ? Philippe Googler.
Toutes les après-midi sur Europe 1, un grand voyage. Nous sommes en Australie avec tous mes amis grands voyageurs, avec Nathalie Hélal, avec Emmanuel Jarry, avec Jean-Bernard Carrier, qui a les clés, vous le savez, de la planète entière. L'Australie, on voit tous à peu près où c'est. Ce dont on ne se rend pas bien compte, c'est de la dimension de ce qui est un véritable continent, en fait.
Vous imaginez la taille de l'Europe, c'est à peu près ça. Vous l'avez dit, 14 fois la France, c'est gigantesque. D'est en ouest, la plus grande distance, tenez-vous bien, c'est 4000 kilomètres. Et du nord au sud, 3200 kilomètres. J'ai une petite anecdote, d'ailleurs, chez les Australiens. Quand ils font 800 km dans la journée, pour eux, c'est une petite balade. Voilà. Pour vous dire à peu près le rapport à la distance qui est complètement différent.
Incroyable. Nathalie.
Moi, j'ai une petite anecdote. Est-ce que vous connaissez l'origine du nom kangourou ?
Ah ben non.
Eh ben, figurez-vous que la première fois que des Européens aperçurent cet animal étrange, ils ont demandé à un aborigène, je rappelle que c'était les premiers habitants de l'Australie, quel était son nom. Et l'aborigène a répondu kangourou, ce qui signifie en langue aborigène, je ne comprends pas votre question.
C'est incroyable.
Et c'est ainsi que les Européens ont pensé découvrir le nom de l'animal.
Donc cet animal s'appelle « Je ne comprends rien ».
Oui, c'est ça. Qu'est-ce que t'as dit ?
Répète
un peu pour voir.
Ça, c'est formidable, ça. Nous sommes en ligne avec Sarah Marquis. Alors, elle est suisse, mais elle est passionnée par l'Australie. C'est une exploratrice pour National Geographic. Elle a fait le tour de la planète à pied. Et elle a vécu de nombreuses aventures là-bas en Australie, où elle a passé la moitié de sa vie. Je crois qu'elle a parcouru plus de 25 000 kilomètres à pied, ça me paraît insensé, là-bas, dans cet endroit incroyable. Bonjour Sarah.
Bonjour à tous.
Bonjour.
Ah bah, donc, vous avez l'air d'avoir la forme après 25 000 kilomètres à pied.
grande forme.
La première fois que vous êtes allée là-bas en Australie, je crois que vous aviez 20 ans. C'était quoi votre première impression ?
Alors, je suis arrivée en Australie, je parlais pas un mot d'anglais, j'avais jamais pris un long courrier, j'étais jamais vraiment sortie d'Europe, et j'arrive, je suis jet-laguée, je passe une nuit tant bien que mal dans un petit hôtel un peu perdu, je sors dans la rue et là, je découvre un monde mais incroyable, un monde un petit peu XXL, comme on pourrait dire. Il y a des palmiers verdoyants dans ces palmiers, dans ces palmes, il y a des chauves-souris géantes.
Des chauves-souris géantes,
on s'est flippé.
Voilà, il y a des chauves-souris géantes. Alors ça s'appelle des flying fox.
Quelle taille ?
Voilà, c'est des espèces de vampires qui s'installent dans les palmes au sol. Au sol, je vois des chenilles, comme on peut en voir chez nous, qui rampent sur le sol, mais c'est grand comme mon index. Il y a tout qui est vraiment beaucoup plus grand que chez nous.
Ouais.
Et c'est comme si je rentrais dans un monde merveilleux.
Ouais, c'est incroyable l'Australie pour ça. On ne dit pas assez ça de l'Australie. C'est que c'est un pays extrêmement impressionnant, mais physiquement, il fait peur parfois parce que tout est énorme, tout est chaud, tout est un peu dangereux. Parfois, les animaux, ils sont pas tous aimables. Et puis, et en même temps, c'est une très très belle aventure. Juste la taille des chauves-souris géantes dont vous nous avez parlé tout à l'heure, c'est combien ?
Alors, ils font 1,50 m d'envergure.
Ouais, ouais.
Donc en fin de journée, il y a un événement qui se passe. Donc le soleil se couche, la journée s'arrête, et il y a une trentaine de minutes qui est un petit peu un moment assez magique. Et là, on entend des cris stridents et on voit ces chauves-souris qui vont chercher dans les arbres les fruits parce qu'ils se nourrissent de fruits, des manguiers, etc. Et puis on les voit.
Ça va être compliqué. Hein.
C'est vraiment impressionnant, en fait. C'est quelqu'un qui s'y attend pas. C'est un événement enfin magique et impressionnant à la fois, en fait.
Alors, je l'ai dit, vous avez parcouru plus de 25 000 kilomètres à pied dans ce pays, qui est vraiment dingue, y compris donc dans ce centre de l'Australie dont on va beaucoup parler aujourd'hui. On parle beaucoup du bush, c'est-à-dire racontez-moi comment c'est le bush, parce que pour moi c'est l'endroit le plus impressionnant d'Australie. C'est des broussailles, c'est du sol rouge, c'est ça?
Oui, exactement. Alors c'est ce qu'on appelle le bush, on appelle cette zone semi-désertique. Donc c'est rarement que du désert. C'est vraiment des petits buissons. C'est des zones rocailleuses. Il y a du sable aussi, mais tout a un ton Le ton part d'un jaune pâle couleur paille et monte au brun avec des touches jaunâtres toujours. Et puis après, on arrive dans le rouge. Ce rouge ocre comme ça qui prend et qu'on n'oublie pas. Et il y a les odeurs qui vont avec. C'est des odeurs de tanins magnifiques qui crochent au fond de la gorge. Il y a qu'à cet endroit-là où j'ai senti cette magie de
des
ce lien,
de quoi,
en fait.
Par exemple?
Comment?
Des odeurs de quoi qui ressemblent à quoi?
Mais c'est des odeurs de tanin, en fait. Ça, c'est vraiment c'est des odeurs d'eucalyptus amplifiées. Tout est amplifié et ça croche au fond de la gorge. Et c'est des odeurs inoubliables qui restent dans le nez pendant des années. Et à chaque fois que j'arrive en Australie, encore maintenant, je sors de l'avion et j'ai cette odeur. Ah, c'est bon, je suis à la maison.
et alors, il faut quand même parler d'un truc, c'est que quand on y va en été, c'est la chaleur, la température qui vous écrase. Moi, je me rappelle d'une traversée de l'Australie avec des camionneurs, parce que c'est le pays des camions, et qui ont parfois deux ou trois remorques alignées derrière la cabine principale. Et donc, on appelle ça des road trains. Et les camionneurs me racontaient que parfois, il faisait tellement chaud qu'ils étaient obligés de rester dans leur cabine toute la journée, parce que s'ils sortaient, c'était physiquement dangereux juste d'être dehors à cause de la chaleur.
Oui, alors la chaleur en Australie, c'est vraiment dangereux parce qu'il y a du vent, c'est vraiment sec aussi, surtout à l'intérieur des terres. Donc la journée, dans ces cas-là, il faut faire comme les animaux, il faut rester à l'ombre et puis il faut respirer. Pour ma part, j'ai traversé beaucoup de ces déserts en été et ce que je faisais, c'est-à-dire que je me m'isolais le plus possible et il faut respirer qu'avec le nez, fermer les yeux et imaginez qu'on est composé d'eau, donc il faut éviter le plus de déperdition possible d'eau. Donc après, c'est des techniques de survie, mais il faut en fait se déplacer que de nuit.
Ah oui, c'est comme ça que vous avez fait 25 000 km de nuit.
Voilà, alors moi j'ai fait une expédition, ma première expédition en Australie, j'ai commencé à Alice Springs et j'ai fait tout le tour de l'Australie pour retourner à Alice Springs et j'ai fait 14 000 km en 17 mois. Ça, c'était ma première expérience en Australie.
Voilà. Toute seule, vous avez fait ça?
Toute seule, voilà. Ouais. Oh, dis donc. Et j'ai sauvé un chien, un dingo, qui m'a accompagné par la suite et qui a fait, lui, 10 000 km à mes côtés.
Jean-Bernard?
J'aimerais savoir un petit peu combien de kilomètres par jour on peut faire dans ces conditions-là?
Alors, dans ces conditions-là, ça dépend si on marche de nuit ou de jour, mais en moyenne, moi, je fais 30 km par jour. Oh. Et puis, les deux premiers mois de l'expédition dont je parle, là, eh bien, j'en avais fait 50. Voilà. Et puis après, quand on marche de nuit, on marche plus lentement. Ça demande plus d'efforts. Donc, on profite vraiment de chaque seconde. Donc, dès que le soleil se couche, il faut commencer. Et puis, la complexité, là, il faut dormir la journée. C'est compliqué de dormir quand il fait 45, 50 degrés.
Et puis, en pleine lumière. Bon. Sarah, vous restez avec nous. Je sens que vous avez plein de choses à nous raconter. Je rappelle que vous avez parcouru plus de 25 000 km à pied en Australie. Vous y avez passé près de 20 ans de votre vie dans ce pays. Vous le connaissez comme votre poche. On se retrouve dans un instant sur Europe 1.
16h, 18h. Et si on partait? Philippe Googler sur Europe 1.
Nous sommes en Australie jusqu'à 18h. Et au cœur de l'Australie, on a choisi aujourd'hui de ne pas parler forcément des surfeurs ou de la Grande Barrière de Corail, ça, mais de ce centre de l'Australie dont on parle peu, mais qui est vraiment une aventure où des températures astronomiques peuvent être atteintes. Moi, je suis allé dans une ville, je vous le disais tout à l'heure, qui s'appelle Coober Pedy, où il a fait 47 degrés, hein, et où les gens vivent sous terre. Et d'ailleurs, là-bas, il y a un autre truc qui est très surprenant, c'est que autour de la ville, le paysage est parfois constellé de petits tas de pierres, comme des grosses taupinières. Et à côté de chaque taupinière, il y a un trou dans le sol. Vous avez une taupinière, un trou, une taupinière, un trou. Alors, c'est un peu étrange comme paysage. Et cette région, elle est assez connue pour son opale, la pierre précieuse. C'est une des régions au monde où on en trouve le plus. Eh bien, la taupinière et le trou, vous savez ce que c'est? Eh bien, ce sont des mineurs indépendants qui sont venus comme ça d'eux-mêmes forer le sol en faisant des trous d'environ un mètre de large et qui peuvent atteindre une vingtaine de mètres de profondeur. Tout ça pour vérifier s'il y a de l'opale. Et si c'est le cas, s'ils en trouvent, eh ben ils exploitent le secteur en espérant faire fortune. On peut acheter sa petite concession, aller faire son trou et espérer trouver de l'opale. Et en explorant un peu le secteur, j'ai rencontré là-bas toutes sortes de personnages. Il y en a un qui s'appelait Ashley. C'est un ancien éleveur de moutons. Il trouvait beaucoup plus excitant de partir tous les jours sous terre à la chasse au trésor que d'élever des animaux à la ferme. Et il creusait, il creuse. Et c'est un travail très difficile parce que l'opale, c'est fragile. Donc vous dégrossissez d'abord à la machine, mais pour atteindre vraiment l'opale elle-même, c'est à la main, au pic, quasiment au pinceau, j'exagère, mais c'est extrêmement délicat parce qu'il ne faut pas faire de dégâts, il ne faut pas casser la pierre. C'est très long, on n'est jamais sûr d'en trouver, on n'est jamais sûr de gagner sa vie, mais il y a des miracles. Un jour, Ashley, mon éleveur de moutons, mon ancien éleveur de moutons, est tombé sur un morceau d'opale qu'il a négocié 60 000 $.
Pas mal.
Et il était content, évidemment. Et vous savez, quand il vous raconte ça, il a les yeux qui pétillent, qui brillent comme tous les chasseurs de trésors. Et il est toujours convaincu que le prochain coup de pique sera le bon. Et c'est ça aussi l'Australie, c'est des paysages arides, durs, difficiles, chauds. Et puis des hommes qui en veulent, comme ça, il y a un petit côté Far West. Nous sommes toujours avec Sarah, qui est une marcheuse de l'extrême. Sarah Marquis, qui a passé plus de 20 ans de sa vie en Australie, qui a parcouru plus de 25 000 km. Il y a un côté Far West, comme ça, là-bas, assez impressionnant. Quand vous marchez toute seule sur ces terres, parfois désolées, est-ce que vous avez des petits compagnons, parfois je parle des animaux. Hein. est-ce que vous faites ami avec des kangourous, par exemple, quand vous êtes toute seule?
Voilà, alors c'est un peu la magie de ces terres isolées, ces bouts du monde. On sent que c'est vraiment le bout du monde. Il y a l'isolation, on sent les distances, c'est gigantesque. Et tout d'un coup, en se levant le matin, eh bien, il y a des petites têtes qui apparaissent comme ça sous le bouche, qui se lèvent et qui sont curieuses. Il y a les petites oreilles qui cherchent d'où vient ce bruit qu'ils connaissent pas, et puis qui s'approchent. Et puis, par moment, elles restent là un moment. Ces kangourous restent à mes côtés pendant quelques instants, et parfois la nuit entière. Donc c'est une organisation familiale, et puis le mâle va rester à mes côtés, va s'approcher de la tente, il va carrément se coucher sur le bord de ma tente, et pendant la nuit, il va se déplacer comme moi, il va un peu se retourner, je vais le sentir carrément à travers la toile.
Donc vous êtes dans une tente et il y a un mâle kangourou qui toute la nuit tourne autour de la tente, c'est ça?
Alors il reste couché, il s'allonge et puis il s'appuie contre la tente. Et moi, je suis dans la tente. Et ça, c'est vraiment des rencontres qui se passent régulièrement parce qu'il est en charge de garder ses femelles en sécurité. Et au petit matin, quand moi, je vais commencer à ouvrir ma tente, il va commencer à taper avec ses pattes arrière sur le sol et envoyer des sons à ses femelles qui sont un petit peu plus éloignées, que tout est OK. Et puis, ou alors, autrement, il faut qu'elles s'éloignent. Et puis, à un moment donné, quand je sors, eh bien, on se trouve nez à nez et puis il part au loin, dans le lever du soleil.
Ça peut être agressif, un kangourou ?
Ça dépend des grandeurs. Alors, il y a plusieurs sortes de kangourous. Ça part du tout petit kangourou qu'on appelle... c'est une sorte qu'on appelle wallaby. C'est une espèce qu'on appelle wallaby. Puis après, ça vient de plus en plus grand. Et justement, dans le centre de l'Australie, on trouve les red kangaroos, qui sont des kangourous rouges, comme on les appelle, qui font jusqu'à 2 mètres de haut.
Ah,
et
ouais.
Eux, par contre, eux, ils ont peur de rien. Donc, souvent, en marchant, je me suis retrouvée nez à nez avec un kangourou qui est allongé, comme un peu comme un romain qui mange sa grappe de raisin. sur le coude comme ça, et puis qui me regardent passer mais sans souci. Et puis ils sont très cool, hein. Ils sont très chill, ils sont là, ils relaxent, il faut pas trop les embêter non plus, mais un kangourou comme ça qui attaque,
Nathalie,
ça fait des dégâts. Mais les animaux en général n'attaquent jamais si on est en harmonie avec son environnement.
Oui, Sarah, on les voit souvent dans certains reportages, en tout cas boxer entre eux, notamment quand deux mâles se disputent la femelle, hein. Les combats sont féroces, hein, il faut le dire, je crois.
oui
ça rigole pas du tout.
Non, ça rigole pas. Ils utilisent les poings, mais surtout, ils utilisent aussi en appui leur queue, derrière, et puis ils poussent avec les jambes. Et c'est quand on tient une attaque de kangourou, c'est pas les poings, c'est vraiment les jambes arrière qui sont violentes. Il faut faire attention. Et puis, mais j'ai jamais, depuis toutes ces années que j'ai passées dans le bush seule au milieu des kangourous, j'ai eu que des belles surprises et des belles rencontres.
Sarah, vous restez avec nous dans un instant. Nous continuerons à voyager avec vous en Australie et puis avec également Nathalie Elal qui, vous le savez, fouine dans l'histoire de l'Australie, recherche des choses étonnantes et elle nous a trouvé un truc assez fort, c'est que l'histoire et les débuts de l'Australie, c'est pas tout rose, tout rose. On verra ça dans un instant sur Europe 1.
Et si on partait ? Philippe Googler sur Europe 1.